gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La vie est une tragédie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Vidé. Seul reste à sa place le jeune... Comment déjà? Ah oui, Étienne Demain. Demain, oui. Que va-t-il me demander? J'ai pas envie de discuter ce soir. Il met dans son cartable ses affaires. L'adolescent s'approche du bureau. Désirez, Étienne, j'aimerais savoir pourquoi vous avez dit que la religion avait été indispensable pour que l'être humain devienne civilisé. J'ai pas beaucoup de temps. Tu comprendras de toi-même. Il était plus facile d'inculper la morale et tout ce qui permet de vivre en société sans nuire à autrui ni à soi en disant aux hommes que les interdictions venaient d'un Dieu, de Dieu. Tu comprends? Je ne crois pas en Dieu. Constant ferme son cartable. Et s'apprête à quitter la classe. chienne le suit.
Vous voulez encore me demander quelque chose ?
Non.
Il longe le couloir désert. L'on entend en passant devant les classes les bruits que font les femmes de ménage pour nettoyer.
Constant regarde son élève qui marche à côté de lui.
Il n'avait jusqu'à présent fait attention à lui. Il est vrai que l'on n'était qu'à la fin du mois d'octobre.
Étienne est grand, mince, brun, un visage de bébé boudeur. Il porte un jean ample, une chemise blanche, une veste de laine marine et des baskets blanches neuves. Il a un cartable en cuir marron.
Vous avez quel âge ?
18 ans, monsieur.
Constant soupire. 18 ans.
Il fait plus jeune que ses 18 ans.
Constant ouvre une porte qui donne dans la cour. La cour est déserte, 18h30, et il fait nuit.
Après avoir traversé la cour, il se trouve dans le passage de la sortie du collège.
Le concierge s'apprêtait à fermer la porte, il les laisse passer.
Le bruit de la rue surprend toujours Constant.
Vous vous dirigez de quel côté, Étienne ?
La route de Vienne, monsieur.
Vous suivez l'avenue Berthelot ?
Oui, monsieur.
Moi, je vais rue Garibaldi, je rentre à pied.
Moi aussi.
Nous y allons ensemble ?
Oui.
Et il quitte le lycée Saint-Michel qui se trouve dans une petite rue transversale à l'avenue Berthelot. Le lycée est derrière l'église Saint-Michel. C'est un petit lycée mixte privé qui a été mis dans un ancien couvent de religieuses. Ils suivent l'avenue Berthelot.
Vous habitez chez vos parents ?
Chez ma mère, mon père a divorcé.
Tes parents ont divorcé ?
Oui, plutôt mon père, c'est lui qui le voulait.
Tu en as souffert ?
Non.
Ta mère travaille ?
Oui, elle traduit des livres, des romans anglais, espagnols et russes.
C'est très bien ça. Et ton père ?
Mon père est peintre.
Joli métier. Et toi, que veux-tu faire ?
Je ne sais pas encore. J'aime le théâtre.
Comédien ?
Non. Plutôt metteur en scène.
Ils arrivent au carrefour de l'avenue Berthelot et de la route de Vienne.
Si vous voulez, je peux vous offrir une tasse de chocolat.
Au café, là, qui fait l'angle.
Étienne hausse les épaules.
Je suis arrivé, mon immeuble est juste là, au 49 route de Vienne.
Je n'empêche pas d'aller boire un chocolat.
Bon, d'accord.
Et il traverse le carrefour.
Et entre dans le café.
Le café, à part le serveur, est vide. Ils s'assoivent à une table.
et commande 2 chocolats. Constant sort un paquet de cigarettes et une boîte d'allumettes.
Ça ne te gêne pas que je fume ?
Non.
Pourquoi es-tu resté pour poser cette question ?
Je ne crois pas en Dieu.
Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu n'existe pas ?
Étienne boit une gorgée de chocolat.
J'ai réfléchi un jour et je me suis dit, Dieu est créateur de toutes choses. L'homme se reproduit donc, il crée. Et s'il peut créer, donner vie, c'est qu'il est comme Dieu. Et s'il peut donner la vie, il n'a pas besoin de Dieu pour créer la vie. Voilà. C'est un peu tiré par les cheveux ta chose. Et qui, au début, a fait le monde, donné la vie ? C'est le hasard. Le hasard à bon dos. Pourquoi es-tu dans un lycée catholique privé si tu ne crois pas en Dieu ? Ce n'est pas moi, c'est ma mère. Elle trouve que c'est mieux pour moi, que je peux étudier dans le calme.
Constant regarde sa montre.
Je crois qu'il faut nous quitter. Il se fait tard.
Ils terminent leur chocolat et sortent du café.
Au revoir, Étienne.
Au revoir, monsieur.
Étienne traverse le carrefour et Constant se dirige rue Garibaldi.
Pourquoi est-ce que j'ai raccompagné ce jeune ? Il faut absolument que je fasse attention.
On pourrait le faire, je pourrais...
À 20h, il arrive à son immeuble, rue Garibaldi. C'est un vieil immeuble qui se trouve près de la piscine. Constant Lapierre entre dans l'allée.
C'est une vieille allée qui est sombre et étroite. Il monte au 3e étage. Et entre chez lui.
Il est clair, un petit hall d'entrée, une porte vitrée à 2 battants en face de la porte d'entrée, sur le côté droit, un porte-manteau en bois. Il quitte sa gabardine grise, son foulard et les met sur le porte-manteau. Quitte ses chaussures et met ses pantoufles. Après avoir mis ses pantoufles, une fois redressé, il remet avec ses mains en place ses cheveux grisonnants comme sa moustache. Son visage ne manque pas de finesse ni de distinction avec ses lunettes en métal doré. Il est grand, mince et porte bien la 50aine. Constant vit seul dans ce petit 2 pièces loué pas trop cher. Une grande pièce qui donne dans la chambre qui, elle, donne dans la salle d'eau.
Les pièces ont été meublées par des meubles que lui a laissé sa mère en mourant. Des meubles simples, en bois, du genre 1930.
Constant, après avoir corrigé les devoirs sur la table de la salle à manger, et mangé un potage en poudre et deux œufs sur le plat, il s'est assis dans un fauteuil et réfléchit. Il ne faut plus que je sois tenté. Je décide de rester comme je suis, sans aucun rapport personnel avec personne. M'éloigner, oui, m'éloigner de tout, ce qui est tentant. Oui, c'est la seule solution.
Étienne va au-devant du professeur.
Entrons ensemble, monsieur. Constant tremble. C'est lui qui l'aura voulu. Si vous le désirez, allons-y. J'espère que ça ne vous a pas fâché ce que je vous ai dit hier.
Moi, fâché?
Pourquoi? Chacun a le droit d'avoir ses idées à lui.
Ils arrivent vers la route de Vienne.
Si vous voulez, monsieur, vous pouvez monter chez moi. Je vous présenterai à ma mère. Tu crois que c'est bien indispensable? Si, ça me ferait très plaisir. Ils entrent dans l'immeuble numéro 49.
C'est un immeuble des années 50, mais clair. Il n'y a pas d'ascenseur et l'on est obligé de monter à pied les 5 étages. Tien sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est une femme de taille moyenne, maigre, cheveux courts bruns, dans les 40 ans. Ni belle, ni laide. Elle porte un pantalon de velours bordeaux et une chemise de la même couleur.
Entrez, je vous en prie.
Ils entrent.
Mère, je te présente monsieur Constant Lapierre. C'est mon professeur d'histoire. Enchanté, monsieur.
Elle les mène au salon. La pièce est grande, claire. Les meubles sont des meubles en bois, plaqués blancs. Ils s'assoient sur des chaises. Ils sont autour d'une table basse.
Mon fils me parlait de vous. Je vous remercie pour ce que vous faites pour mon fils.
Constant voit qu'elle a l'air fatiguée.
Je ne fais rien d'extraordinaire pour votre fils.
Vous l'avez raccompagné et payé un chocolat. Il lui propose un verre de vin. Il refuse.
Je ne dois pas rester. Il faut que je m'en aille.
Il se lève. Elle se lève.
Au revoir, madame. Au revoir, monsieur.
Une fois qu'elle a raccompagné le professeur, elle retourne vers son fils. Elle lui demande :
Que fais-tu ce soir ? Je vais étudier. Moi, je vais écrire.
Plus tard, Constant reçoit une invitation
pour une représentation théâtrale qui se déroulera chez Étienne.
Ah oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'il faisait du théâtre.
Lorsqu'il sonne à la porte, il est 21h. C'est la mère qui lui ouvre.
Bonjour madame, vous venez pour la représentation ?
Oui.
Ce n'est pas ici, c'est dans la cour de l'immeuble. Attendez, je vais descendre avec vous. Je vais me donner un coup de peigne et je descends.
Ils arrivent dans la cour de l'immeuble, il y a déjà une cinquantaine de personnes. On a installé une scène et des chaises pour les spectateurs. Constant et la mère s'assoivent dans un coin retiré.
Que vont-ils jouer ?
Roméo et Juliette. La plupart des spectateurs sont des jeunes étudiants. Constant se sent un peu gêné au milieu de cette jeunesse.
Bloody.
La représentation s'est très bien passée. Pour des bénévoles, le spectacle était formidable. Et en anglais en plus. Constant n'en revient pas.
Étienne s'approche d'eux.
La mère l'embrasse.
Félicitations, mon petit.
Constant lui tend la main.
C'était prodigieux. J'aurais jamais cru. Et en anglais, en plus.
Ta mise en scène était formidable.
Si vous voulez, monsieur, après le spectacle, nous montons chez moi avec quelques intimes.
Pour finir la soirée.
Je veux bien, oui.
Avant, Chancon déménage la cour.
Quelques amis intimes vont finir la soirée chez Étienne.
La mère est montée avec eux, mais elle a quitté l'appartement aussitôt qu'elle leur a servi à boire.
La soirée se passe à discuter du spectacle.
Constant observe Étienne. Il aime ce côté désinvolte et cette foule qu'il a parlé du théâtre.
À 2h du matin, l'on se sépare.
Constant est resté le dernier.
Descendant les escaliers, rencontre la mère d'Étienne.
Y a-t-il encore du monde ?
Non.
Merci.
Et elle monte.
Constance est arrêtée et la regarde monter les escaliers. Pourquoi est-elle sortie ? Le lendemain, Étienne dit à Constant que s'il le désire, il peut venir chez lui le samedi soir pour discuter. Constant accepte. Constant chez Étienne. C'est toujours la mère qui lui ouvre. Il entre, Étienne le reçoit. Et la mère sort. Parle littérature, théâtre, avenir. Ils sont seuls ou avec quelques amis d'Étienne. Constant se sent un peu gêné d'être entouré de jeunes, mais ne peut s'empêcher d'aller à ses soirées. Il est comme le papillon qui est attiré par la lumière de la lampe. À chaque départ, en descendant, les escaliers. Il rencontre la mère qui monte et demande toujours si son fils est seul. Pourquoi ne reste-t-elle pas chez elle, même si elle ne veut pas nous voir? Elle peut bien rester chez elle. Constant est seul avec Étienne. Étienne quitte son jean pour mettre un short. Constant est troublé par ce déshabillage et les jambes nues d'Étienne. Durant toute la soirée, il n'ose pas le regarder. Deux samedis de suite, Constant n'est pas venu. Étienne lui téléphone. Allô, c'est Étienne. Pourquoi ne venez-vous plus à mes samedis? J'étais un peu fatigué. Mais si vous êtes guéri, venez. Constant a la gorge qui lui serre. Il aimerait y aller, mais sait que s'il y va, ce sera pour souffrir. Oui, je viendrai. Constant sonne à la porte. La mère lui ouvre. Elle a la mine et les cheveux défaits. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Étienne est à sa chambre. Il y va. Étienne est assis sur son lit. Il se lève. Vous permettez, j'ai quelque chose à dire à ma mère. Et il sort de la pièce. Constant s'assoit sur une chaise. Il entend Étienne, qui est dans la pièce voisine, parler à sa mère. Alors, tu me le donnes cet argent? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de te payer cet appareil. C'est ton dernier mot. Je vais le dire à père. Arrête, attends. Elle ouvre un tiroir et sort un carnet de chèques. C'est combien? 12 000. Elle fait le chèque et le lui tend. Tiens,
Et quand je n'en aurai plus, tu en auras encore.
Il se retourne et va rejoindre Constant.
Constant est surpris par cette scène, mais n'ose pas poser de questions. Comment se fait-il qu'un garçon si brillant, intelligent, puisse agir de cette sorte avec sa mère ? Les jours passent. Un soir, en descendant les escaliers, il rencontre la mère. Non, il n'y a personne. Pourquoi vous sentez-vous obligé de quitter votre appartement chaque fois qu'il y a du monde chez vous ? Il faut bien que mon fils reçoive seul ses amis. Étienne dit à Constant, pour les vacances de Pâques, nous partons, ma mère et moi, dans notre maison de campagne. Si vous voulez, nous vous invitons. Constant est surpris. Je ne sais pas si je dois. Et votre mère? Ma mère est d'accord. Dites oui, je vous en prie. Bien. La maison est où? En Bretagne, au bord de la mer. J'accepte. Le soir, dans son lit, Constant se demande pourquoi il a accepté. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Une semaine plus tard, ils partent en voiture. Celle de la mère, c'est elle qui conduit. Le voyage se fait sans histoire, sauf que la mère semble morose. Elle n'a pas parlé durant tout le trajet. Après une demi-journée de voyage, ils se sont arrêtés pour déjeuner.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est genre sel ?
Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers ?
Ils arrivent enfin, il est 22h. La maison se trouve en bordure de route, à 5 minutes du village et à 10 minutes de la mer. L'endroit est désert. La maison est une ancienne maison grise de 2 étages. Après avoir sorti de voiture et pris les bagages, ils entrent dans la maison. L'humidité et semble, le soir en tout cas, lugubre. « Vous désirez manger quelque chose avant d'aller vous coucher ?» demande la mère. « Non merci, » dit Constant, qui est épuisé par le voyage. Étienne ne dit rien. Puis, « Je suis heureux d'être de retour dans cette maison. Cela me rappelle de bons souvenirs, des temps heureux, n'est-ce pas, mère ?» Elle ne répond pas, puis dit, « Si vous voulez bien, monsieur, je vais vous mener à votre chambre. Suivez-moi. »
Ils montent tous les trois au premier étage. Suivent un couloir. Elle ouvre une porte. Voici la chambre d'amis. Elle est toujours prête. Elle fait entrer Constant. Elle lui montre la pièce. La chambre est grande, les meubles sont en bois massif campagnard. L'on a mis un gros égourdon rouge sur le lit. Si vous avez froid, il y a des couvertures supplémentaires dans l'armoire. La salle de bain, c'est la porte à côté de votre chambre. Voilà, c'est parfait. Merci. Le lendemain matin, devant le petit déjeuner qu'ils prennent ensemble au salon, là, la mine défaite, Constant est en face d'eux. Étienne dit « Alors, mère, cette maison ne vous rappelle rien ?» Elle pose sa tasse. « Vous ne dites rien. Souvenez-vous, père, sa maladie. » Elle ne dit toujours rien et baisse les yeux. « Père était malade d'une drôle de maladie et vous nissez tout le temps, n'est-ce pas, mère ? Et vous, c'est vous qui le soignez avec amour. Et puis, un matin, qu'il souffrait horriblement, on a été obligé d'aller chercher le médecin à cause des domestiques. Tais-toi, tu étais trop jeune, tu ne sais pas ce que tu dis. » Elle se lève et sort de la pièce en courant. Constant ne sait pas où se mettre. Il est affreusement gêné. Vous croyez toujours en Dieu, en la justice divine? Oui, mon père y croyait. Il aimait ma mère plus que tout. Et moi aussi. Mais ce n'est pas à moi de vous raconter tout ça. Allez, venez. Allons nous promener sur la plage. Et ils sortent de la maison. Le ciel est gris, la mer est forte. Leur retour, ils retrouvent la mère au salon, assise, le visage fixe. Elle a sursauté en les voyant. Étienne s'avance vers elle. Constant reste dans l'encadrement de la porte. Une fois qu'Étienne est vers sa mère, il se retourne et dit à Constant de rentrer. Constant entre et s'assoit sur un fauteuil. Il est affreusement gêné. « Alors, mère, vous voulez rien me dire ?» Elle baisse ses yeux. « Si vous ne voulez pas me le dire à moi, dites-le à lui. Il croit en Dieu. Non ?» Elle sursaute. Se penche vers elle. Leur visage se touche. « Je vais le dire pour vous. Si vous croyez que je ne sais pas ce qui s'est passé... » Il se lève, marche en faisant les 100 pas. Voilà le drame. Constant se lève pour quitter la pièce.
Non, restez. Puisque vous croyez en Dieu, vous le représenterez et jugerez.
Moi ?
Écoutez, ma mère ici présente était tombée amoureuse d'un comédien gigolo qui jouait dans une troupe minable des pièces de Shakespeare. Lorsqu'elle l'a rencontré, il jouait Roméo. Tout un programme, n'est-ce pas ? Ils se sont rencontrés, il l'a séduite et elle voulait fuir avec lui. Mais lui voulait qu'elle parte avec l'argent. Pas de fortune personnelle, mais s'il mourait, elle hériterait. N'est-ce pas, mère ?
Ne dis rien et reste droite sur son siège.
Alors ma mère, oui ma mère, a tenté d'empoisonner mon père, ici même. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les domestiques ont voulu qu'elle appelle les médecins, n'est-ce pas, mère ? Il continue à gesticuler.
Mon père n'a pas porté plainte, mais malgré qu'il était très croyant, il a demandé le divorce.
Moi, j'avais 10 ans, je l'aimais comme un dieu. C'était tout pour moi. Après cette histoire, il a cru que je n'étais pas de lui. Et il m'a renié, à cause de vous, mère.
Ne dit toujours rien. Le fils s'approche vers elle, en tremblant, pleurant, et s'allonge à ses pieds.
Vous savez comment je l'ai su, mère ? C'est le médecin qui m'a tout raconté. Il voyait que père n'avait pas porté plainte contre toi.
Il se lève, lui fait face.
Non, mère, vous allez vous confesser à lui et demander pardon, car il est comme père.
Elle ne dit toujours rien. Elle est pâle et tremblante.
Vous allez vous confesser à lui, vous dis-je.
Il la tire par le bras.
Aïe ! Aïe ! Sort du fauteuil et la tire à terre. Confessez-vous à lui ! Confessez-vous à lui, mère !
Aïe ! Aïe ! Peut la traîner jusqu'au fauteuil de Constant.
De la pièce. Allez ! Allez !
Elle ne dit toujours rien. Elle est à terre. Lui essaye de la traîner.
Allez !
Il la gifle. Constant n'en peut plus. Il se lève.
Cela fait des années que je le savais, mère. Et vous le saviez que je le savais. C'est pour cela que vous acceptiez tous mes caprices. Alors, puisque je le sais que vous saviez que je le savais, je vous demande, c'est de demander pardon devant lui. Lui qui représente père. Allez !
Elle ne dit toujours rien. Il la gifle et la tape.
Aïe ! Aïe ! Aïe !
Cogne ! Lui déchire les manches de sa robe.
Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Constant n'en peut plus. Il va vers la porte. Juste avant qu'il ne sorte, Étienne le voit. Il s'arrête de taper sur sa mère, mais la maintient.
Où allez-vous ? Je pars, je sors. J'en ai assez, vous vous êtes trompé de tragédie. C'est pas Roméo et Juliette que vous deviez jouer. Mais Hamlet,
il ouvre la porte et sort.
Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La vie est une tragédie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.